Code économie.
Un nouveau logiciel de gestion présenté hier au public. Ce dernier permettra aux clients d'effectuer des transactions avec la FNB Bank à partir de téléphones portables sans se déplacer. D'autres avantages de ce mobile banking à découvrir tout à l'heure. Des vendeurs d'art sur la place royale des nouveaux Dekerpi, alors que ce marché fournissait aux touristes une occasion de garder des souvenirs des œuvres d'art représentant toute la culture de la RDC. 27 ans après son existence, la ville de Kindu a subi une véritable métamorphose. Des régies financières ont leurs bâtiments, de grandes artères asphaltées, mais sur le plan économique, il y a une chute lamentable. La disparition des huileries et scieries à production industrielle en sont des exemples palpants. Bonsoir à tous. Ce magazine parle de la ville de Kinshasa où la FBN Bank a présenté hier jeudi son nouveau logiciel de gestion, les Finacle 10. Ce nouveau produit, selon ses concepteurs, rendra possible une interface qui permettra aux clients d'effectuer des transactions avec leur banque à partir de leur téléphone portable sans se déplacer. D'autres avantages de ce nouveau produit sont liés à la réduction des temps que doit passer un client pour toutes les opérations et dans n'importe quel l'agence de la FBN Bank RDC. La banque se propose de basculer vers ce nouveau logiciel à partir du samedi 1er août prochain et les directeurs du service informatique donnent ici des précisions sur les précautions à prendre. On écoute M. Bilonda au micro de Daniel Tambinzoni.
Le 31, nous passons toutes les opérations normalement. Nous clôturons le mois avec le système actuel et nous commençons les travaux de migration à partir du 1er, qui est un samedi. On travaille dimanche, on travaille aussi lundi. Donc les trois jours-là, c'est pratiquement à guichet fermé. Donc nous ouvrons...
Vous n'ouvrez pas les services?
Non, nous n'ouvrons pas. Nous n'ouvrons que le mardi. Nous ouvrons avec le nouveau système à partir du 4 août 2015. Et pourquoi ce logiciel? Parce que, comme le DG l'a expliqué, ça apporte plus de produits, ça apporte plus à ce que nous avons aujourd'hui. Déjà, c'est bâti sur une plateforme qui est totalement Java. Java, ça veut dire, avec votre Internet Explorer, vous avez un link que vous utilisez pour avoir le système.
C'est-à-dire, les clients n'ont rien à craindre de cette migration. Le solde que vous arrêtez au 31 juillet sera le même lorsque vous allez rouvrir avec Finacle 10 le 4 août.
Exact, exact. Le client n'a rien à craindre parce que nous avons déjà fait beaucoup de tests. On a fait plus de 5 tests pour effectivement nous rassurer que tout est en place.
Et au cas où, au 31, moi par exemple, mon compte a un solde de 10 000 $ et au 4, ce même solde qui était de 10 000 au 31 juillet, au 4 août, il affiche 8 500. Non, si une pas... éventualité comme celle-là arrivait.
Non, c'est pas possible parce que les tests qu'on a fait, on a plus de 260 000 comptes. Et en vérifiant chaque fois, on n'a pas eu un seul écart. Donc c'est la première chose qu'on vérifie quand on fait des migrations, c'est sur les soldes. Et sur les soldes, on vous affiche que jusqu'au centième près, on n'a pas eu de différence entre les deux.
Vous l'avez suivi, un nouveau logiciel de gestion vient d'être lancé pour rendre possible une interface qui permettra aux clients d'effectuer des transactions avec leur banque. C'est ce qu'on appelle le mobile banking. Et pour en savoir un peu plus, suivez ces zooms proposés par Donna Madimba.
Mobile banking ou mobile banking, si l'on doit l'expliquer en quelques mots, se traduit littéralement comme étant une banque mobile à travers le téléphone. Pour mieux vous aider à comprendre, retenez que le téléphone portable, qui était connu il y a quelques années comme un outil de communication, est devenu en quelque sorte comme un porte-monnaie électronique. De la même manière qu'une carte bancaire, aujourd'hui le téléphone portable peut être utilisé comme un moyen pour faire des transactions financières. Pour illustrer cette explication, un exemple, c'est comme lorsque vous avez votre carte bancaire, mais avec le mobile banking, au lieu d'aller à la banque, vous allez vers un opérateur du réseau téléphonique de votre choix, et ce, avec du cash, c'est-à-dire de l'argent, afin de consigner ce cash. Cet opérateur de téléphonie cellulaire va transformer cet argent en monnaie électronique, donc, dans votre téléphone, il vous mettra de la monnaie virtuelle, qui est en fait l'argent que vous lui avez remis. Cet argent est contenu maintenant dans votre téléphone. Pour qu'il soit protégé, vous avez un mot de passe connu de vous seul, comme cela se fait dans le cas d'une carte bancaire. Une fois que l'argent est dans votre téléphone, vous pouvez l'utiliser. Mais comment l'utiliser? Il vous suffit de partir soit dans tous les points où opère votre réseau retiré du cash et faire vos achats, soit alors faire directement des achats dans tous les magasins où se trouve l'opérateur de votre réseau. Voilà donc ce qu'on appelle mobile banking ou mobile banking.
Je le disais au sommaire, les vendeurs d'œuvres d'art de la place royale de Nouveau-Dékerpie, alors que ce marché fournit aux touristes et expatriés résidents au Congo de beaux souvenirs du pays. Ces vendeurs demandent à être relocalisés pour leur permettre d'écouler leurs marchandises. Un reportage rendu ici par Donna Madimba.
Ils sont près de 600 vendeurs concernés par ce énième déguerpissement. Dans ce marché, on trouve toutes les œuvres d'art représentant la culture de toutes les provinces du pays. Il y a des statues, tableaux, bracelets, colliers, j'en passe. Le prix d'une œuvre d'art varie et la taille, la valeur, la matière première utilisée et surtout le message véhiculé. Ces vendeurs payent des taxes communales qui sont journalières et certains font de bonnes recettes. Tout dépend du facteur chance et aussi des événements organisés dans la capitale. Et voilà qu'ils viennent d'être déguerpis et ils ne savent ni où aller ni que faire pour écouler leurs marchandises, dont certaines étaient perdues et brûlées par des policiers lors du déguerpissement. Christophe Moukanz, vice-président de ce site d'art, explique.
L'importance de ce marché, nous sommes en train de représenter la culture congolaise par les œuvres d'art. Sur le plan économique, les étrangers qui viennent ici chez nous, ou les touristes, ou les officiels étrangers qui viennent ici, après les obligations dans notre pays, ils viennent s'en procurer les œuvres d'art comme souvenir. Ils n'achètent pas de télévision, ils n'achètent pas de jeans, ils n'achètent pas des habits, ils achètent des œuvres d'art congolaises. Dans le temps, on payait la patente de l'hôtel de ville, c'était $22. Et maintenant, on nous paye la taxe d'étalage communal de la commune de la Gombe. Nous payons 2000 francs par étalage. Et ils sont venus brutalement brûler à notre absence. Et tous les étalages et les œuvres d'art ont été brûlés. Nous sommes des cynismes. On ne peut pas traiter les enfants d'un pays comme ça, comme si on était des étrangers.
Rappelons que ces vendeurs étaient d'abord devant la galerie présidentielle. De là, ils sont allés sur un terrain où on a érigé par la suite l'immeuble Beautour, puis à la gare centrale en face de l'ONATRA où on leur avait demandé de construire un matériau durable. Ce qu'ils ont fait pendant 10 ans suite au travaux de modernisation du boulevard. Ils étaient une fois encore déguerpis pour la place royale et voilà qu'ils viennent à nouveau d'être déguerpis. Pour le moment, on leur demande d'aller au camp Kokolo, ce qui ne les enchante pas. Les pourparlers continuent donc entre ces vendeurs et le gouvernement provincial. C'est donc un dossier à suivre.
Une seule nouvelle en brève, le chef de l'État accompagné de son épouse sont arrivés hier jeudi dans la soirée à Lubumbashi. D'après certaines sources, durant son séjour dans la capitale du cuivre, Joseph Kabila va procéder à une série d'inaugurations. C'est notamment la tour de contrôle de l'aéroport international de Lubumbashi et ses annexes, ainsi que des locomotives neuves récemment acquises par la Société nationale des chemins de fer du Congo. En outre, il va donner les coups d'envoi à partir du poste des péages de Kisangani à Lubumbashi, des travaux d'agrandissement de la route Kasumbalesa qui devra désormais avoir 4 bandes.
Écho d'économie.
Au Sud Kivu, plus de 40% des enseignants du secteur public à l'enseignement primaire et secondaire ne reçoivent pas leur salaire depuis plusieurs années. Parmi eux, certains sont mécanisés et non budgétisés, d'autres sont de nouvelles unités. Cette révélation a été faite hier jeudi à Bukavu lors de la clôture des travaux de promotion scolaire de la province scolaire du Sud Kivu. Les responsables de l'éducation en province demandent aux parlementaires de se pencher sur ces cas en votant des rallonges budgétaires. Ladislas Munganza, directeur provincial de l'enseignement primaire et secondaire au Sud Kivu, au micro d'Emmanuel Elamiji Wakabedi.
D'après l'évaluation faite, on n'a pas atteint les objectifs du plan intérimaire de l'éducation à 100%. Mais il y a des avancées dans le secteur de l'accès. Il y a eu l'amélioration de la qualité. Par exemple, le Sud Kivu vient de sortir 3 fois parmi les 10 meilleurs provinces éducationnelles au concours national des dictées. Néanmoins, nous avons, sur les 40 000 enseignants, il y a 24 000 qui sont payés et 16 000 qui attendent. Encore une fois, nous avons crié en direction du Parlement. C'est l'autorité budgétaire du pays. Il faut que le Parlement, au niveau provincial comme au niveau national, accorde une rallonge budgétaire pour permettre au ministère de l'EPSP de ponger ces gaps. Pour l'année qui va commencer, nous nous préparons pour améliorer l'inscription de tous les enfants à l'école. Même les enfants vivant avec handicap et aussi ont droit à l'inscription. Nous devons renforcer les mécanismes de l'appropriation de l'école par la communauté. Il faut que l'école devienne un bien de la communauté et non pas un bien du chef d'établissement.
Terminons par le Maniema. 27 ans se sont écoulés le 22 juillet depuis que le Maniema est une province. C'est suite au deuxième découpage territorial intervenu en 1988 après celui des 1962 à 1966. Cette province a connu 18 gouverneurs dont une femme, Gertrude Kitembo. Retour sur l'évolution du Maniema dans le domaine le plus divers, notamment l'économie, avec vous, Rigobert Yumandwani.
En 1988, la ville de Kindu ressemblait à un archipel de maisons dans un océan de verdure, des routes non asphaltées, aucun établissement d'enseignement supérieur, pas de bâtiments de services de l'État. Aujourd'hui, 27 ans après, on se croit voir une autre ville véritable. Les espaces inhabités disparaissent, les grandes artères asphaltées. Des maisons modernes étant privées que de l'État naissent. Presque tous les services étatiques et des principaux organes de l'État, les régies financières, ont leurs bâtiments. La ville de Kindu a subi une véritable métamorphose. Témoignage de Catherine Aziza Sadiki, ancienne vice-gouverneure du Maniema, elle parle d'évolution et avantages.
Je trouve qu'il y a d'évolution. Dans le temps, la justice était loin des justiciables. Mais aujourd'hui, quand vous avez un dossier, vous pouvez le traiter ici. Quand on a découpé la province, on ne pouvait pas prendre une maison de Bukavu, vous l'amener ici. Mais aujourd'hui, l'État même a déjà ses bâtiments. Il y a des institutions supérieures qui sont déjà à Kindu. Nous-mêmes, nous sommes les fruits des institutions supérieures de Kindu.
Malgré cette évolution, la province du Maniema connaît une chute lamentable sur le plan économique. Il y a la disparition des huileries et scieries à production industrielle, la chute de la Sominki, de la SNCC et la dégradation des routes qui sont en train d'être réhabilitées. Kindu, Rigobert Yumandwani Walumba, Radio Kapi.
Merci de votre fidélité au magazine économique qui était supervisé par Léonard Moulamba. La mise en onde était assurée par Guy Manzangou. Bon week-end à tous.